Merci d'écouter Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'État et ses poules aux œufs d'or. La vente d'ADP de la Française des Jeux fait débat à l'Assemblée. L'opposition dénonce une grande braderie des fleurons de la nation. Quand Bercy garde la main sur la fraude fiscale, là ce sont les magistrats qui s'émeuvent. Non, le verrou de Bercy n'a pas sauté. Redouane Faïd dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Un client pas facile à gérer pour les surveillants, on l'entendra. Ainsi que les députés En Marche que nous entendrons, dépités par le climat du moment après l'affaire Colomb. Mafia, populisme, immigration, ce sont les trois combats de votre invité ce matin, Nicolas.
Et il en paye le prix, l'écrivain et journaliste italien Roberto Saviano, qui publie son premier roman, Piranha, aux éditions Gallimard, sera dans notre studio dans une vingtaine de minutes, 01 45 24 7000.
À la une également, la chasse à l'ours toute la nuit dans les Pyrénées, les anti-plantigrades sur le pied de guerre alors que la réintroduction de deux ours est imminente. Encore plus de PV à Paris grâce à la vidéo-verbalisation. Et puis le sacre de Neymar hier soir, 3 buts avec le PSG en Ligue des Champions. Ils en ont mis 6, les Parisiens, à l'Étoile Rouge de Belgrade.
France Inter.
Après la BNP dans les années 80, France Télécom dans les années 90, EDF dans les années 2000, voici venue la nouvelle vague de privatisation des années 2010. Pour 10 milliards d'euros, l'État vend la Française des Jeux, Engie et les aéroports de Paris. Tout ça se discute à l'Assemblée depuis hier soir et c'est tendu. Hélène Filly, la France est-elle en train de vendre les bijoux de famille? C'est un débat idéologique.
Les députés ont commencé par Aéroports de Paris et la socialiste Valérie Rabault a sorti ses chiffres.
On a comparé l'actionnariat de 460 aéroports en Europe. 460. Eh bien, hormis le Royaume-Uni, tous les aéroports sont détenus par la puissance publique. Vous nous faites faire un saut dans le vide qui ne s'est jamais produit en Europe.
Et sur les bancs, l'opposition se rassemble pour une bonne raison, affirme le député LR Philippe Gosselin.
C'est que nous avons le sentiment, non par dogmatisme qui nous empêcherait de privatiser, on l'a fait à d'autres époques et avec d'autres outils que l'on considérait comme moins stratégiques. Si on se retrouve ce soir, c'est que nous avons vraiment le sentiment d'une braderie qui est ouverte de fleurons qui sont les bijoux communs de la nation.
Cela n'a rien d'une braderie pour le gouvernement qui revendique une logique d'État investisseur plus que d'État rentier et une régulation renforcée, le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
L'État continuera à contrôler les nouveaux investissements. Aucune cession de foncier ne pourra avoir lieu sans accord de l'État.
L'argent de la vente doit servir à abonder un fonds pour l'innovation de rupture. Le ministre a tout de même reconnu qu'il servira aussi largement au désendettement de l'État.
Et Bercy qui se sépare de ses poules aux œufs d'or, mais qui garde la main sur la fraude fiscale. Et oui, c'est le constat des magistrats financiers qui ont épluché le projet de loi de lutte contre la fraude, de retour à l'Assemblée aujourd'hui. Et pour eux, il y a tromperie sur le fameux verrou de Bercy, officiellement levé, ce qui veut dire que le ministère est censé transmettre les plus gros dossiers à la justice. En réalité, on n'y est pas du tout. Sarah Guibaudot, c'est ce que les magistrats vous ont dit.
Pour certains magistrats, ce texte, c'est de la poudre aux yeux, voire une arnaque. Et quand ils ont entendu sur France Inter que les gros dossiers de fraude fiscale seraient signalés à la justice, ils ont décroché leur téléphone pour partager leur analyse, bien différente de celle du gouvernement. Le texte, c'est vrai, pose des conditions. Bercy devra transmettre les fraudes d'un montant supérieur à 100 000 euros si le fisc a appliqué des pénalités de 100 ou 80%, c'est rare, ou bien des pénalités de 40%, mais en récidive. Bref, c'est toujours l'administration qui choisit ses fraudeurs, fulmine un magistrat financier. L'arbitraire n'a pas disparu, mais on le limite un peu, nuance le syndicat de la magistrature, quand l'Union syndicale des magistrats se dit déçue. On ne peut même pas se saisir d'un cas de fraude découvert dans une enquête sur la criminalité organisée, expliquent les magistrats. En clair, poursuivre Al Capone pour fraude fiscale ne sera toujours pas possible en France sans l'accord de Bercy. Le fisc choisit les personnes à contrôler et il préfère souvent une transaction financière plutôt qu'une justice exemplaire. C'est la plus grande atteinte à l'égalité, estime un magistrat spécialisé.
Il est 8h05, ils ont vendu, Florence, la peau de l'ours avant de l'avoir aperçue.
Courte nuit dans les vallées béarnaises où les anti-ours ont dressé des barrages pour empêcher l'arrivée en convoi de 2 femelles slovènes. Il ne reste que 2 mâles dans les Pyrénées et les éleveurs n'ont pas du tout envie de les voir se multiplier. Ils craignent pour leurs troupeaux. Alors cette nuit, ils ont attendu les ours de pied ferme et ils recommenceront ce matin. Alain Gastal est l'homme qui a vu l'homme qui n'a pas vu l'ours.
Deux tracteurs qui pétaradent, un brasero, une table de pique-nique bien remplie et une cinquantaine de militants, des bergers, des agriculteurs pour la plupart, prêts à passer la nuit pour empêcher coûte que coûte le passage du convoi chargé de lâcher des ours un peu plus haut dans la montagne. La hantise du leader des anti-ours, Olivier Morin, un lâcher nocturne par hélicoptère.
Nous, on a un gros point ici. Après, on a des gars en montagne qui surveillent un peu pour essayer de nous prévenir pour qu'on y monte en suivant, quoi. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on vous envoie un hélicoptère de l'armée pour poser des ours, face à ça, on peut rien faire, quoi.
Au milieu de la nuit, toujours aucune nouvelle, alors on s'énerve un peu et on décide de bloquer la route. Deux camions sont coincés de part et d'autre. Le patron des gendarmes d'Oloron vient pour négocier.
On nous prend pour des cons, maintenant c'est fini. On bloque la route tant qu'on n'aura pas de réponse. Vous appelez la préfecture, vous demandez des nouvelles de ces ours.
Non, mais on reste là. On reste là. Je sais que tu veux profiter des caméras pour faire un coup de
gueule. Je profite de rien du tout.
Toute la nuit, des rumeurs succèdent aux rumeurs jusqu'à un mystérieux coup de fil qui annonce que les ours seraient dans un zoo quelque part dans la région. Elles ne seront donc pas réintroduites dans la nuit. Le barrage sera maintenu mais allégé. Rendez-vous ce matin de bonne heure pour la reprise des hostilités. À Sarans, dans la vallée d'Aspe, Alain Gastal, France Inter.
Et pour lui, la traque est terminée. Redouane Faïd, mis en examen hier soir pour évasion en bande organisée après son arrestation à Creil hier avec un de ses frères, deux neveux et une ancienne policière. Il a été incarcéré dans la nuit à la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Et Nicolas Billan, secrétaire national adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants, souhaite bien du courage à ses collègues de Vendin-le-Vieil, justement.
Ça va être un détenu difficile à gérer parce que par rapport aux deux autres détenus, il va passer pour le caïd. Donc il va falloir faire très attention aussi à son comportement en détention, ses fréquentations. Mais après, il y aura une certaine appréhension des collègues. C'est toujours délicat de gérer des détenus comme ce détenu-là. Bien sûr, il aura de l'influence, il peut avoir de l'aide, des complices, une fois qu'il se sera installé, entre guillemets, dans l'établissement. On a actuellement des soucis de sécurité, notamment avec la présence des téléphones portables qu'on retrouve dans quasi toutes les cellules des prisons en France, quoi. On est sur une moyenne de 40 000 téléphones saisis par an. Après, il est possible que ce détenu soit régulièrement transféré dans d'autres établissements pour casser un peu sa routine.
Et hier, c'est Édouard Philippe qui est allé féliciter les policiers à Nanterre, intérimaire de Gérard Collomb, le temps de lui trouver un successeur. Le ministre démissionnaire de retour à Lyon après avoir lâché Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas une crise, selon le président qui parle de péripéties. Ce qui compte, c'est le travail des institutions. Et en ce 60e anniversaire de la 5e République, l'opposition dénonce la chienlit au sommet de l'État. L'expression du général empruntée par le socialiste Olivier Faure. Mais les députés de la majorité, s'ils ne le disent pas, n'en pensent pas moins, Karine Bécard.
Dans les rangs de la majorité, les députés sont cette fois vraiment amers. Rien à voir avec ce qu'ils ont vécu il y a un mois quand Nicolas Hulot a décidé de quitter le gouvernement. Gérard Collomb, lui, c'était le premier des macronistes, c'était le premier à avoir cru en Emmanuel Macron. Voilà pourquoi le coup est tellement rude pour Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine.
On passe d'une journée à l'autre à travers des hauts et des bas concernant la composition du gouvernement, par exemple. Ça, on pourrait s'en passer. Moi, je dois dire que j'ai réaffirmé avec beaucoup de force le caractère engagé de Gérard Collomb. Et je me suis retrouvé un peu en porte-à-faux, parce que deux heures après, il n'était plus là.
Et il n'a même pas dit au revoir aux parlementaires de La République En Marche. Ça non plus, ils n'ont pas apprécié. Alors maintenant, ils cherchent à comprendre comment l'exécutif, comment le président en est arrivé là. Isabelle Florenne est elle aussi une élue des Hauts-de-Seine.
C'est une fois de plus une question d'écoute et des ministres et des parlementaires. C'est pas le cas depuis un mois quand même.
Comment vous vivez ça personnellement, viscéralement ?
Un peu perturbant.
Pour réussir à tourner la page, les députés de la majorité sont persuadés qu'il faut remanier vraiment tout le gouvernement, mais l'exécutif peine déjà à trouver un nouveau ministre de l'Intérieur, pas sûr qu'il ose multiplier les difficultés.
Ça ressemble au coup des consuls et à la nomination de l'écrivain Philippe Besson, proche d'Emmanuel Macron à Los Angeles. Le Conseil des ministres, hier, a validé une modification de la nomination des recteurs d'académie pour en diversifier le recrutement. Dans la foulée, une camarade de promotion du président de la République, camarade de promotion de l'ENA, Charline Avenel, a été nommée à la tête de la plus grosse académie de France, l'Académie de Versailles. Et l'Obs rapporte que des universitaires s'émeuvent de son manque d'expérience académique.
Il est 8h10. Suisse à la veille de l'hommage aux Invalides. L'Arménie continue à célébrer Charles Aznavour.
Et nous sommes ce matin à Goumri, à 2 heures de la capitale Erevan, une ville rasée par le séisme de 1988. À l'époque, Charles Aznavour avait créé une fondation et une chanson, souvenez-vous, pour aider la ville. Il s'était rendu sur place. Les habitants de Goumri n'ont pas oublié. Reportage signé Philippe Randet.
Dans les montagnes du Caucase, à 1500 mètres d'altitude, au milieu des vieilles ladas russes, la statue de Charles Aznavour trône sur un immense rond-point, un lieu de pèlerinage pour Loucinet, qui avait croisé l'artiste en 1988, juste après le séisme.
Je l'ai vu à Goumri, dans une église. Il était à côté de moi. Il a allumé une bougie au milieu des gravats. Il nous a tellement aidés à l'époque. Il nous a donné de la nourriture, des habits. Et grâce à cette chanson incroyable, Pour toi, Arménie, il nous a apporté une très grande aide financière.
Et pendant que Loucinet lève les yeux vers la statue, une femme en fauteuil roulant, paralysée depuis 1988, dépose un œillet blanc au pied de Charles Aznavour. Aznavour, ce héros, c'est aussi la vie de Gaïané qui était enfant au moment du séisme.
J'avais 10 ans et mes parents se sont précipités pour le voir parce qu'il incarnait le futur. Je sais que Fondation Aznavour a beaucoup aidé les Arméniens. On a reconstruit presque tout parce que la ville était rasée. Il a aidé le peuple à se relever des ruines morales.
Un peu plus loin, le sculpteur de la statue sourit avant de conclure. J'espère qu'un grand hommage officiel sera organisé ici dans les prochaines semaines. Charles nous a sauvés. Il faut que le monde entier le sache. Goumri, Pierre Quintard, Philippe Randet, France Inter.
Et toujours à l'étranger, en bref, le président péruvien Alberto Fujimori retournera-t-il en prison ? Un juge a annulé la grâce qui lui a été accordée l'an dernier et ordonné son arrestation. Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité et corruption, a été hospitalisé quelques heures après cette décision. L'Église en France, face au scandale d'abus sexuels, il s'exprime pour la première fois ce matin dans les colonnes du journal La Croix. Monseigneur Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, n'exclut pas la mise en place d'une commission d'historiens. Nous aurions pu le faire plus tôt, reconnaît le prélat. À Paris, voilà qui va faire encore râler les automobilistes après les escouades d'agents du privé qui écument la capitale en dressant des PV de stationnement. Les agents municipaux vont traquer les contrevenants grâce à un millier de caméras. Le dispositif sera présenté tout à l'heure. Ce sont les caméras de la préfecture de police prêtes à relever le moindre écart de conduite. Jade Péchiras nous fait entrer dans l'antre du PV.
Dans une pièce aveugle de la préfecture, des dizaines d'écrans comme autant de fenêtres sur la capitale.
Bonjour, enchantée.
Nathalie fait partie des 22 agents de police qui verbalisent les automobilistes récalcitrants de Paris depuis 2013.
Bah en fait, on visualise les véhicules qui pourraient potentiellement être en infraction vis-à-vis du code de la route.
Ce sont des caméras en direct.
C'est cela. S'il y a un abus, j'essaye de prendre la photo et on s'applique à faire le procès verbal.
Le PV arrive chez le conducteur dans les 5 jours, explique sa supérieure.
Françoise Hardy, sous-directrice régionale de la circulation et de la sécurité routière. C'est vraiment 2 missions principales, fluidifier la circulation dans la capitale et lutter contre la sécurité routière. Donc 71% à peu près de l'activité, c'est des infractions relevées dans les couloirs de bus, stationnement ou circulation.
Garé en double file sur une voie de bus, justement, Nathalie. Warning allumé sur l'une des avenues les plus fréquentées de Paris à l'heure de pointe.
Je trouve que c'est pas très, très chouette. Je préfère avoir quelqu'un qui vient me dire de vive voix. Vous n'avez pas le droit, vous êtes là, je vous verbalise. Pourquoi pas des drones aussi, après partout, qui vont me verbaliser. On est fliqués partout, quoi. C'est un peu dommage.
Pendant la phase test de la ville de Paris, les nouveaux agents ont verbalisé près de 200 conducteurs par jour. Les policiers, eux, en sont déjà à plus de 300 en moyenne.
Paris qui multiplie les PV et qui multiplie les buts dans une autre catégorie. Le PSG magique hier soir au Parc des Princes. 6 buts marqués face à l'étoile rouge de Belgrade qui n'en a mis qu'un. 6 buts dont 3 signés Neymar. De quoi rattraper la défaite de Liverpool il y a 15 jours, Jérôme Val.
Le PSG est devenu cette saison une machine à marquer. Un joueur symbolise cette réussite. Neymar, auteur d'un triplé hier soir dont 2 coups francs directs. Il devient le Brésilien le plus prolifique en Ligue des Champions avec 30 buts marqués au total.
Je suis très content de la façon dont nous avons joué et dont nous avons gagné. Mon équipe a gagné, mais en inscrivant 3 buts, je ne peux pas être plus heureux. C'est sans doute l'un de nos meilleurs matchs pour l'équipe et pour moi.
Le PSG a tiré 33 fois hier, un tir toutes les 3 minutes. Malgré le déchet dans le jeu, le club confirme que son niveau ne cesse de progresser depuis la défaite à Liverpool. Le défenseur Presnel Kimpembe.
On essaye de montrer un nouveau visage.
visage depuis cette défaite à Liverpool. On est tous très contents de l'équipe depuis un moment et on espère que ça va continuer ainsi.
Certes, l'étoile rouge était bien pâle hier soir. Difficile de jauger le PSG sur ce match, selon le défenseur Thomas Meunier. Le vrai test, c'est dimanche avec la réception de Lyon en Ligue 1.
Si on leur met 6-1, là, on pourrait vraiment dire qu'il n'y a pas de prétention, hein, sinon ça va jaser encore. Si on les bat, voilà, tout simplement, on pourra dire que petits ou grands adversaires, on peut faire la différence.
En tout cas, avec des attaquants aussi séduisants, les futurs adversaires du PSG ont bien du souci à se faire.
Alors, en revanche, la soirée fut un naufrage pour Monaco qui s'incline 3-0 à Dortmund après une première défaite en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Enfin, sport et business, c'est le pari de Teddy Riner qui lance son en école de marketing et de communication sportive à Paris, la Paris School of Sports, ouvert aux anciens sportifs. C'est une information du Parisien aujourd'hui en France.
Merci Florence Paracuelos.